France Musique.
22h sur France Musique, merci de nous écouter. Tout de suite, les grands entretiens.
France Musique, les grands entretiens, Laurent Valero.
Je m'appelle Vincent Courtois, je suis né le 21 mars 1968 à Paris et je suis violoncelliste, compositeur et improvisateur.
Vincent Courtois, bonjour, on est ravis d'être ici en votre compagnie, dans votre atelier, non loin de Paris, la pièce où vous travaillez, où vous avez l'habitude de composer, d'écrire, d'improviser, de jouer du violoncelle. Vous êtes un musicien parmi les plus intéressants de la scène européenne. Votre parcours va dans tous les sens, ce qui ne veut pas dire qu'il est difficile à suivre, mais au contraire qu'il est passionnant à retracer. C'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette série de grands entretiens à votre compagnie. Alors, un petit peu la question rituelle, c'est comment la musique était entrée dans votre vie. Ça nous parle donc de l'enfance, ici même à Aubervilliers.
En fait, je suis né dans une famille au départ où il n'y avait pas de... Mes parents n'étaient pas musiciens. Ma mère était institutrice. Et mon père avait un métier très original. Il était peintre décorateur de manège. Il avait une société où il peignait en fait les manèges forains, les façades des manèges. Et je me suis toujours dit que, aussi bien pour ma sœur que pour moi, c'était quand même une ouverture et une manière d'avoir quelqu'un qui revenait tous les soirs à la maison avec de la peinture un peu partout, avec des paillettes. Il y avait des paillettes beaucoup aussi. Et il y avait tout ça un peu à la maison, il y avait tout ce monde un peu...
C'était un peu magique, le monde forain.
C'était un monde complètement magique, complètement différent, avec aussi des... Parce que c'est le monde forain, c'est une grande famille. Donc ses clients, entre guillemets, étaient aussi ses amis, faisaient... Et il l'avait vraiment intégré, lui, et ainsi que ma mère, et donc nous aussi, dans la grande famille des forains, même si nous habitions en appartement, et ça n'était pas en caravane, mais on avait quand même cette espèce d'attachement à ce monde-là qui était essentiel pour nous, et je suis persuadé que c'est quelque chose qui a joué dans ce foyer donc de 4 personnes, puisque j'ai une sœur, et puis après, dans ce que j'ai fait par la suite, et dans une espèce de recherche permanente d'un monde imaginaire, d'un monde un peu différent, qui je suis persuadé que ça a guidé aussi plus tard les compositions. Donc voilà, donc on était de ce, et puis d'un monde comme ça où il n'y avait pas particulièrement de musique, jusqu'au jour où en fait assez jeune, ma sœur a commencé le violon au conservatoire d'Ivry, parce que ma mère était enseignante à Ivry, et donc après l'école nous allions au conservatoire avec ma sœur, et j'attendais dans les couloirs avec ma mère qui corrigeait ses copies, et j'attendais, moi j'étais donc tout petit, et puis dans ce couloir il y avait un homme qui régulièrement sortait de sa classe, qui se trouvait être le mari de la prof de violon, qui lui-même était prof de violoncelle, mais ça je le savais pas, et il y avait toujours un petit mot gentil pour le petit garçon assis à s'ennuyer à côté de sa mère. Et quelques années après, quand ma mère m'a demandé si je voulais faire de la musique, j'ai dit bah oui, comme ma sœur. Et puis quand on m'a dit bah quel instrument, j'ai dit je sais pas, je veux être avec lui parce qu'il est gentil. Et c'était Erwan Forêt.
Et donc c'était un instrument quand même de la même famille, le violon. Voilà. Mais alors j'imagine vous l'entendiez votre sœur jouer, parce que souvent on dit qu'au début du violon c'est toujours un peu difficile.
Alors oui, j'ai des souvenirs un peu d'avoir entendu ma sœur, justement, je me souviens, de jouer du violon, mais je me souviens pas très très bien exactement de si ça me plaisait ou pas, mais j'aimais bien ce rapport à l'objet. En tout cas, on peut pas dire que le violoncelle au départ est une vocation. C'est plutôt un
voilà. Un concours de circonstances.
C'est plutôt un concours. Et puis c'est ce professeur qui m'a vraiment donné envie. Et donc, c'est Erwan Forêt, cette classe de violoncelle où en fait après ils ont créé, ils étaient un peu au début je crois du conservatoire Robert Villiers à Courneuve, et donc bah, on a fait le avec ma sœur, nous avons fait le voyage avec monsieur et madame Forêt pour aller au conservatoire de Berville à Courneuve, où j'ai fait tout un cursus très très classique jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque le prix, jusqu'à mon prix ici à Aubervilliers, avec ce professeur qui était très qui avait un côté, notamment quand on était vraiment petit, qui avait un côté un peu comme un bon papa, un peu comme ça, qui faisait son travail, puis qui avait surtout une très grosse classe où il y avait beaucoup d'étudiants de tous les niveaux. Et donc, on était tout de suite, il y avait des auditions, donc on était très vite confrontés, les petits avec les grands, les grands avec les petits, il y avait une grande émulation. Et puis, il y avait aussi cette chose très importante à Aubervilliers, qui était une ouverture vers le monde, vers un monde de culture, en fait, qui était très, très lié à ce, je pense, au maire de l'époque, qui s'appelait Jacques Ralit, bien connu, qui avait vraiment ouvert, dédié sa ville, à donner accès aux jeunes, à beaucoup, évidemment, de sport. Ici, c'est vraiment une ville de sport. Je dis ici, puisque je suis revenu habiter à Aubervilliers. Une ville de sport et de culture. Et il y avait vraiment cette idée de, bah, cette grande idée de la culture pour tous, mais qui était vraiment aussi dans l'idée de proposer à la population d'Aubervilliers une ouverture à des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, mais qu'ils pourraient apprécier, qu'ils pourraient aimer, qu'ils pourraient découvrir, et que ça fasse complètement partie de leur vie, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il y avait ici, il y avait beaucoup à ce conservatoire, il y avait des prêts d'instruments pour les plus défavorisés, il y avait des accès à des disques, qu'on appelait discothèques, là, où on louait les disques, où on pouvait louer les partitions, où il y avait des séances d'orchestre, il y avait des séances dans les classes, il y avait tout un tas de choses qui étaient possibles, et qui ont offert, je pense, à beaucoup à l'époque, de possibilités.
Oui, ce qui veut dire que c'est pas un vain mot quand une ville propose tous ses services, que ça a vraiment des traductions dans le concret finalement pour les jeunes.
Ben en tout cas, pour le coup, à l'époque, ça l'était, dans le sens où je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens et de musiciennes qui ne seraient pas du tout là où ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet accès. Et peut-être aussi des gens qui n'ont pas forcément fait carrière d'ailleurs, mais qui sont restés à tout jamais attachés au fait de se dire, voilà, c'était une proposition qui fait qu'encore maintenant, on peut éventuellement avoir accès à des concerts qu'on a envie d'écouter, ou à ses propres enfants, de les orienter vers des possibilités musicales ou artistiques, ce qui était vraiment, vraiment essentiel et qui était vraiment assez unique à cette ville d'Aubervilliers, et aussi c'est là aussi grâce à tous ces concerts qui étaient proposés, il y avait des voyages aussi, on avait des orchestres qui partaient, on avait l'orchestre du conservatoire qui partait en voyage, et puis il y avait aussi des ensembles, notamment des ensembles de violoncelle qui allaient jouer dans différents endroits, notamment je me souviens très très bien d'un souvenir marquant des états généraux de la culture au Zénith à Paris, où on avait joué là, je sais pas, peut-être j'avais 12 ou 13 ans, et j'avais joué là, je me souviens très bien avoir joué au Zénith à 12-13 ans, et comme même concert, c'est là où j'ai découvert qu'un musicien comme Bernard Lubat, par exemple, qui est devenu pour moi tellement important dans mon imaginaire, un peu par la suite. Voilà, mais ça, c'est vraiment grâce à cette éducation. Et Aubervilliers, bah voilà, moi je suis resté pendant un petit moment, j'ai passé mon prix. Là, il y avait aussi, Erwan Forêt avait deux assistants, un assistant et une assistante, qui s'appelaient Paul Pichard et Pascal Michaka, qui ont été vraiment essentiels pour moi, qui étaient beaucoup plus jeunes, mais qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné, qui m'aimaient bien, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont poussé aussi beaucoup, qui m'ont aidé aussi beaucoup au moment de l'adolescence.
Alors justement, Vincent Courtois, à propos de ça, puisque vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas issu d'une famille de musiciens, comment s'est passé tout ce parcours auréolé de succès finalement jusqu'au prix de fin d'études ou de médaille d'or au conservatoire, parce que ça suppose beaucoup de travail personnel et peut-être des parents qui sont des musiciens et qui donc poussent leur enfant à faire des gammes toute la journée.
Alors en fait, on était quand même, on a été élevé avec ma sœur dans une idée d'exigence. C'était très très important. Ma mère donc était institutrice, c'était vraiment, elle avait cette rigueur des instits d'une certaine époque avec de manière d'apprendre à travailler et d'essayer de trouver du plaisir dans le travail. Mon père était un gros bosseur aussi, mais surtout pour eux, je crois que ce qui a toujours été important, c'était de nous donner accès à nos passions, de nous faire comprendre que c'était vraiment important, quoi qu'on fasse dans la vie, de rester passionné. Donc je crois qu'ils ont tout fait, toujours, pour nous offrir cette possibilité d'être dans la passion.
Ce qui est un bon viatique, quand même, dans l'existence.
De jamais l'oublier, c'est quelque chose que j'ai essayé de ne jamais oublier, de toujours garder en moi cette passion. Et plus tard, ce qui était peut-être moins évident plus jeune, c'est la notion de plaisir, qui est quelque chose encore maintenant avec mes étudiants ou en général dans ma vie, que j'essaie que le plaisir soit toujours, toujours, toujours présent. Et ça, c'était évidemment un petit peu plus compliqué plus jeune, parce qu'évidemment, moi, je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir à rabâcher les phrases de violoncelle ou les grandes mélodies que j'adorais. Mais par contre, quand il s'agissait de travailler les choses un peu plus techniques, c'était un petit peu plus compliqué. Et là, c'est là où j'ai eu la chance, en effet, d'avoir quand même des parents qui me poussaient, et puis aussi qui ont eu...
Qui vous encourageaient aussi.
Et qui m'encourageaient, et qui ont aussi eu l'intelligence, quand c'était plus compliqué, quand j'avais tout simplement beaucoup moins envie de travailler, et puis que peut-être ne pouvaient pas m'accompagner parce qu'ils ne savaient pas, de me mettre un peu entre les mains de personnes qui ont su justement m'accompagner et m'aider, comme c'est pour ça que je disais...
Alors oui, justement, Vincent, pourtant, vous parliez de ces deux assistants de votre professeur de violoncelle, ouais, plus jeunes que lui,
oui,
et donc plus proches de vous,
oui,
et qui vous ont accompagné de manière très bienveillante, je dirais.
Oui, puis c'est surtout, ils m'ont pris en... Bah, en fait, après, pour comme en fait, je montais, les niveaux montaient, voilà, j'étais de plus en plus fort, entre guillemets, et puis donc, bah voilà, il fallait bien réussir à suivre. Et donc, pour suivre la progression, j'ai commencé à prendre des cours particuliers, notamment avec Pascal Michaka, avec qui je suis toujours très proche, et jusqu'au jour où Pascal s'est dit que, bah justement, qu'il fallait encore peut-être changer, être capable, elle s'est dit qu'il fallait être capable de me lâcher, d'aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'elle m'a fait rencontrer un violoncelliste qui était proche d'elle, qui était déjà, mais qui est devenu maintenant un des grands pédagogues du violoncelle en France, qui s'appelle Xavier Gagnepain. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, adolescent, en fait, à travailler avec Xavier Gagnepain, qui m'a encore monté en moi le curseur de l'exigence et de la rigueur aussi, d'une certaine rigueur instrumentale. Et c'est vrai que ça a été encore une étape, et tout au long, en fait, de ma vie classique, parce qu'en fait il y a un peu deux vies, c'est que parallèlement il faudra revenir à ce qui s'est passé de l'autre côté à l'adolescence sur d'autres musiques, mais en fait au niveau classique, petit à petit j'ai rencontré un tas de gens qui m'ont amené à une grande rigueur.
Thank you.
France Musique, les grands entretiets de Vincent Courtois.
Et on peut dire que votre formation est vraiment classique et que c'est après que vous avez bifurqué vers les domaines du jazz et de l'improvisation.
Alors le jazz et l'improvisation, c'est arrivé, j'ai vraiment décidé de quitter le chemin classique un peu plus tard, mais par contre, et ça c'est vraiment, vraiment important dans mon parcours, c'est l'adolescence. Je pense comme beaucoup de jeunes, à l'adolescence, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements, comme chacun le sait. Et pour moi, j'ai toujours pensé que c'est un moment, quand on est professeur, il faut vraiment faire attention et suivre ce qui est en train de se produire quand un élève qu'on a connu à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout d'un coup devient adolescent, avec tout ce qui peut se passer, toute la révolte aussi, toute la révolte de l'adolescent, il faut...
Y compris qu'il peut aller contre la musique, parce que l'adolescent peut abandonner le violoncelle.
Qui peut aller contre une certaine musique, qui peut aller contre, justement, contre tout ce que demande comme travail, comme investissement, pas toujours très marrant, l'apprentissage d'un instrument. Tout d'un coup, d'autres choses qui vont nous intéresser plus, d'autres musiques qui vont nous intéresser plus. Et je pense qu'il faut pas, surtout pas aller contre, ou surtout pas aller dans le rejet. Et c'est vrai que moi, à des moments, j'ai ressenti un petit peu ça, avec certains professeurs, même certains élèves, un petit peu de rejet. Tout d'un coup, j'ai eu un petit peu l'impression de devenir, à certains moments, un peu le vilain petit canard qui s'intéressait un peu à d'autres choses. Et heureusement, certains de mes professeurs ont été complètement toujours là, toujours présents. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et je les remercierai toujours d'avoir continué en fait à croire en ce que je faisais. Je pense que je faisais partie, ils le disaient, que je faisais partie à certains moments de la catégorie des élèves. Il y en a plein des comme ça. Hein. J'étais pas unique, mais beaucoup d'élèves assez doués. Je pense que j'étais assez doué, mais qu'à un moment donné, où travailler devenait vraiment compliqué pour moi. Et j'arrivais un peu toujours à m'en sortir. Parce qu'au dernier moment, comme j'avais une facilité, un don, en travaillant un peu plus, bah, tout passait quand même, les examens, les concours, tout ça s'est toujours passé assez bien, parce que j'avais cette espèce de don. Mais parallèlement à ça, donc à l'adolescence, au lycée, il y avait des... Je me souviens qu'il y avait les groupes de mes copains qui jouaient du rock, quoi, qui avaient appris la guitare 6 mois avant, qui avaient piqué une guitare de leur père ou je sais pas quoi, un autre qui s'était mis à la batterie sur 2 bassines de lessive, et qui avait l'air vraiment de s'éclater, beaucoup plus que moi, qui avait des connaissances de musique beaucoup plus grandes, puisque j'avais commencé, moi, par contre, pas 6 mois avant, mais des années avant. Et je les voyais au lycée faire ce qu'ils faisaient, et je me suis trouvé rapidement un petit peu complexé, en fait, par rapport à eux. Et puis aussi parce que j'aimais cette musique, j'aimais un tas de musique que je découvrais avec eux.
Justement, Vincent Courtois, dans cette enfance, avec ce parcours assez linéaire, finalement, des premières études classiques jusqu'au conservatoire, qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez ado, justement, quand on commence à écouter un peu autre chose?
Alors, en fait, moi, je connaissais avant d'être adolescent, il y avait quelques disques à la maison. Il n'y avait pas énormément, mais il y avait quelques disques, beaucoup de musique classique, mais il y avait aussi les disques de jazz de mon père. Et je me souviens surtout de 2 disques que j'écoutais. Il y avait un disque de William Strong, dont mon père était très très fier, et puis un autre d'un pianiste de Boogie Woogie bien connu qui s'appelle Memphis Slim, et j'aimais beaucoup ça,
qui a vécu à Paris.
Voilà, j'écoutais beaucoup les disques de, je me souviens, ce disque que j'ai toujours ici d'ailleurs, un disque de Memphis Slim. Et puis parallèlement à ça, bah voilà, il y avait la musique classique. Et puis à l'adolescence, je reviens sur cette époque de l'adolescence, il s'est passé, c'était la grande époque, ça devait être dans les années 84, c'était le début des années Mitterrand, quelque chose comme ça, et il y avait un chanteur français dont c'était la grande, pour moi la grande époque, qui amenait une espèce d'originalité, une manière de faire complètement différente, des concerts spectacles un peu, et c'était Jacques Higelin. En tout cas, c'était une époque où moi, j'étais jeune, je découvrais ça, j'étais assez fan, et il y avait quelque chose qui était très important, important pour moi dans ce groupe, c'est qu'il y avait un violoncelliste. Il y avait un violoncelliste belge du nom de Denis Vanek, que j'ai eu la chance de croiser après plusieurs fois, qui était assez incroyable, qui était un très bon violoncelliste, mais qui était vraiment lui fan de Jim Hendrix et qui avait complètement désossé son violoncelle de manière à pouvoir jouer sur scène dans un groupe de rock, non pas comme on pouvait le voir parfois dans une section de cordes, mais vraiment sur scène à la même place qu'un guitariste. Et lui, il a vraiment été, Denis a vraiment été pour moi un premier déclencheur de se dire tiens, ça existe et que peut-être qu'il y a un lien entre ces groupes de rock du lycée et ce que je vois tout d'un coup avec Jacques Higelin. Tout d'un coup, tiens, il a ouvert une petite porte, quoi. Et là, c'est comme ça que, notamment, il y avait un disque que j'écoutais, mais en boucle, vraiment en boucle, qui était le concert live à Mogador, où là, il y a deux morceaux. Notamment, il y a un morceau qui s'appelle « Je veux cette fille », où il y a au milieu une espèce de long solo de violoncelle électrique, avec un son assez incroyable, avec de la distorsion, de la wah-wah, du machin, puis avec une vraie place de soliste rock, mais au violoncelle. Alors ça
m'avait... Ce qui était vraiment très rare à l'époque.
Parce que ça n'existait pas. Il y avait ça, et puis il y avait un autre morceau qui s'appelle « Irradié », où toute l'intro et tout le morceau, c'est un ostinato, quoi. Et il y a une espèce de gimmick de violoncelle qui est joué quasiment en boucle. Et c'était, dès le départ, l'intro et tout le morceau étaient portés et tenus par cet instrument et par Denis Vanek au violoncelle. Donc ça a été vraiment pour moi un premier déclencheur de faire le lien avec la musique rock. Et puis, puisque vous me demandiez ce que j'écoutais, donc voilà, évidemment, donc j'étais parallèlement à la musique classique que j'adorais complètement. J'étais parallèlement à ça, j'étais complètement inspiré par le rock. Et il y avait un personnage aussi, musicien, un violoncelliste qui pour moi comptait énormément à l'époque, dont j'étais complètement fan, qui pour moi, d'une certaine manière, faut m'imaginer adolescent, faisait le lien entre tous ces mondes, c'était Paul Tortelier. Parce que Paul Tortelier...
Pourtant, il n'a pas fait tellement de rock.
Il n'a pas fait beaucoup de rock, mais par contre, il avait, pour moi, c'était une icône. Pour moi, c'était vraiment une icône.
Il était hors des sentiers battus, Tortelier.
Ah bah complètement, sur beaucoup de points de vue. Et puis il avait cette icône, il avait cette espèce de chevelure blanche, ce regard comme ça, ce physique incroyable. Et puis c'était vraiment, pour moi c'était comme une rockstar, mais de la musique classique, quoi. Donc il y avait quelque chose qui arrivait dans mon imaginaire et dans mon monde d'adolescent à faire le lien, et c'était un peu lui, un des premiers qui arrivait à faire le lien entre toutes ces contradictions que j'avais. Parce que, en plus, à l'époque, c'était une époque où on pouvait, où quelqu'un comme Paul Tortelier pouvait être à la télévision, puisqu'il y avait télévision, on le voyait vraiment comme une. Alors, comme une. Pour moi, c'était vraiment une star.
Cette marche extraite de la musique pour enfants opus 65 de Prokofiev, interprétée par Paul Tortelier, se referme le premier épisode de ses grands entretiens avec Vincent Courtois. Une série proposée par Laurent Valero, d'ores et déjà disponible en podcast dans son intégralité sur l'application Radio France. Vous écoutez France Musique, retrouvez tout de suite Création mondiale avec Anne Montaron.
Samuel Sigicelli est le compositeur de la semaine dans nos brèves sonores. En collaboration étroite avec l'écrivain Pierre Kuenz, il a imaginé une page sombre et mystérieuse pour voix de femme, piano préparé et électronique, baptisée « L'incident voyageur ». Cette création est un vrai quatre-mains.
Il faut savoir qu'avec Pierre, on réfléchit depuis 2 ans à l'élaboration d'un opéra. Et moi, je lui dis, commençons par écrire des petites pièces vocales pour réfléchir à la notion de personnage et comment on écrit aussi pour ce personnage chanté. Et comment lui, il avait envie aussi de travailler sur cette voix qui raconte quelque chose de soi-même, sans que ça soit une histoire avec des personnages, etc., mais que ça soit plus intérieur.
La voix qui raconte quelque chose d'elle-même dans l'incident voyageur, c'est celle de la mezzo-soprano et comédienne Landi Andriambo-Avonji, qui incarne en réalité plusieurs personnages en un.
Il y a cette femme qui prend le métro de manière automatique. Et tout d'un coup, il y a cet incident qui arrive sur la voix. Et là, ça crée des flashs en elle. Et elle retrouve l'enfant qu'elle était. Elle revoit l'hôpital où elle était médicalisée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôpital? Le mystère, on ne sait pas trop. Et puis, il y a cette femme qui parle à voix haute, où elle sent que ses jambes se dérobent sous elle. Tout d'un coup, cet incident crée comme une fonte des muscles, une fonte des organes. Enfin, tout d'un coup, elle replonge dans son passé et elle a des flashbacks comme ça. Elle parle de cet enfant qui l'attend sur l'autre bout du quai. C'est qui cet enfant? C'est elle, enfant? On ne sait pas. C'est un vrai thriller, cette pièce.
Aujourd'hui, lundi, première plongée dans ce thriller qu'est l'incident voyageur avec Landi Andriambo-Avonji et Claudine Simon, piano et électronique.
Votre attention, s'il vous plaît, suivez l'incident de l'essor. Votre attention, s'il vous plaît.
Me manque, elles sont immenses comme une chevelure dans l'eau. Je ne peux pas bouger. Mon corps flotte au milieu des regards. Ils ont l'air si nombreux. Je ferme les yeux.
Il ne voit pas que je vois bien qu'il me brusque. Elle fait exprès.
Je reconnais ses mains. Je ferme les yeux, j'ai déjà fermé les yeux. Je suis invisible, bien fait pour moi. Je ne peux pas bouger, ça m'apprendra à trop regarder.
Et maintenant, je suis entre les mains de l'infirmière brutale. Elle fait exprès, elle fait exprès. J'en suis sûre.
J'aurais dû laisser des instructions claires. On n'y pense pas qu'on peut être appelé in extremis.
Pensez de l'enfant qui m'attend de l'autre côté de la gare, au bout du quai, de la voie 6, de la voie 7. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus.
J'ai appelé et il n'y avait personne. Et j'ai dormi. Je me souviens que j'ai dormi dans le métro. Je me souviens que je me suis dit, tu peux dormir vu que Saint-Lazare, c'est sur la 14, pas de changement. Tu peux dormir, tu ne rateras pas la station. J'étais à bout de force. Je suais sang et eau, des cailloux de glace. Il fallait dormir. Les mots que je dis, je ne les prononce pas de moi-même. Pas vraiment, je les entends.
Le premier tableau de l'incident voyageur. Musique de Samuel Siguicelli sur un texte de Pierre Kuenz, écrit sur mesure pour cette création enregistrée le 30 août dernier à Radio France. L'incident voyageur n'est pas un récit, une narration proprement dite, c'est davantage un voyage intérieur, le voyage d'un personnage de femme, campé ici par la mezzo-soprano Landi Andriambo-Avonji avec, pour complice, au piano préparé et à l'électronique, Claudine Simon. La suite du feuilleton, demain. Vous écoutez France Musique, il est 22h30, l'heure de retrouver Françoise Monteil pour les trésors de France Musique. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Anne, à demain.
À demain.
Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Nous vous invitons aujourd'hui à saluer la mémoire de Benoît Dutertre, l'une des grandes voix de France Musique, qui vous donnait rendez-vous avec le musical, la chanson et l'opérette chaque samedi dans son émission « Étonnez-moi Benoît ». Ce n'est pas le producteur de radio que vous allez écouter dans notre archive du jour, mais l'écrivain. Le tout jeune écrivain même qui, en 1985, publiait son premier roman intitulé « Sommeil perdu ». Un roman d'inspiration autobiographique qui raconte l'itinéraire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années dans le Paris des Noctambules. À l'occasion de la sortie de ce roman, France Culture reçoit Benoît Dutertre dans l'émission « Un livre des voix ». Un entretien illustré par la lecture d'extraits de ce roman « Sommeil perdu » lu par Bernard Hervé. Benoît Dutertre avait 25 ans, il répondait aux questions d'Antoine de Gaudemart. Evelyne Frémy a réalisé les séquences de lecture et cette émission, diffusée le 23 avril 1985, était présentée par Pierre Cipriot.
Sommeil perdu de Benoît Dutertre est un étrange itinéraire, mi-réel, mi-onirique, dans le Paris des Noctambules. Ça se passe à Montparnasse ou rue des Lombards-Ouale. Sur un plan de Paris, on pourrait d'ailleurs suivre le personnage à la trace. Sommeil perdu de Benoît Dutertre est le récit d'une aventure de jeunesse. À la fois une éducation sentimentale, une enfance difficile, une adolescence troublée, et en même temps une initiation à la vie parisienne, la plus agitée, des événements intenses, des rencontres imprévues, sans lendemain, comme on en fait la nuit. Tout s'efface, tout repart. Le personnage flotte. Il ne peut ni vouloir, ni aimer, ni avoir un métier, ni tendre les bras à quelqu'un d'une manière fidèle, exacte. Il a seulement décidé, à la fin du livre, de mettre un intervalle entre sa jeunesse et l'âge adulte, et il va, en quelque sorte, sacrifier sa vie pour cette maturation, en s'imposant toutes sortes de devoirs, comme dans une société d'initiation. Ajoutons que la mère du narrateur est morte. C'est même la première sortie, l'enterrement est l'occasion pour le narrateur d'une grande fête. L'idée lui vient alors d'écrire un livre, « L'arme d'un canon », un récit sur la guerre de 14. Un éditeur de choc veut publier ce livre en revue, tout est prêt, y compris le repas de lancement qui a lieu aux frais de l'auteur. Mais au dernier moment, pour des raisons techniques, l'arme des canons ne paraît pas. L'éditeur dépose son bilan. Le narrateur va alors galoper de plus en plus belle. Un certain imprévu que je ne vous décrirai pas, car parfois il côtoie des milieux un peu pervers. Un certain imprévu s'empare de lui. Il est très excité, puis dégoûté de sa vie, de ses débauches et de ses mauvaises rencontres. Au point qu'il finit dans un magasin de manutention où le sous-chef de service va le faire plonger dans ce que le narrateur appelle les bas-fonds. Dans le bruit assourdissant des chaufferies, écrit Benoît Dutertre, le chef de service me présenta mes collègues, quelques Portugais, un beau Yougoslave, un Français débile, deux Algériens, deux Tunisiens, un Marocain. Avec eux, mon rôle consistait à récupérer les colis envoyés depuis les rayons par les monts de charge, puis à les véhiculer sur un chariot à travers tous les dédales du sous-sol, parmi les machines et les marchandises entreposées. Ainsi, ce voyage au bout de la nuit finit un peu comme les temps modernes de Charlie Chaplin.
Ce fut épouvantable. D'entrée de jeu, on me chargea de balayer toute une partie d'un sous-sol dégueulasse, ce qui, malgré mon ardeur, ne constituait pas une besogne très excitante. Je m'appliquais tout de même à réunir minutieusement les tas de poussière, davantage par l'énergie de la haine que par celle de l'efficacité. Mais je ne pouvais me faire aux confusions hiérarchiques, comme si celle de l'entreprise impliquait, selon eux, une hiérarchie intellectuelle identique, c'est-à-dire qu'en tant que manœuvre, mes supérieurs les plus idiots me considéraient d'emblée comme un mongolien, un pauvre type, un débile profond. J'avais l'impression de parler à des savants. Et j'en étais réduit à égaler mes égaux, pas brillants, qui toutefois m'inspiraient plus de sympathie que les petits chefs blancs.
Benoît Dutertre, c'est donc un premier livre que ce sommeil perdu. La notice biographique qui est au dos de votre livre nous fait part d'un double début de carrière, si je peux dire, musicien et romancier.
Oui, enfin, c'est pas exactement mon premier livre, puisque j'ai déjà écrit beaucoup de choses avant. C'est mon premier roman, c'est le premier que je termine. C'est le premier livre, sans doute, disons, lisible que j'écris, mais j'ai beaucoup griffonné pendant pas mal d'années avant. Et j'écris en fait depuis donc longtemps. J'ai commencé d'écrire avant de faire de la musique, et c'est ma première occupation depuis beaucoup d'années. Et puis après, bon, comme j'étais aussi très passionné de musique, j'ai passé le bac, il a fallu que je fasse des études. Alors, comme l'écriture s'apprend pas vraiment dans les écoles, bien que ce soit déjà à ce moment-là ma préoccupation principale, bon, j'ai décidé de faire des études de musicologie et de musique. Mais c'est quand même d'écrire qui m'intéresse avant toute chose.
Alors pour ce premier roman publié, vous avez choisi, j'allais dire, une structure très classique qu'on pourrait définir comme le roman d'apprentissage, l'éducation sentimentale.
Voilà, oui. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre-là, sans du tout penser que ça pouvait avoir un rapport, je lisais, j'ai lu deux fois l'éducation sentimentale, mais je me suis aperçu du rapprochement après coup. Enfin, c'était pas quelque chose de conscient pour moi que d'autres écrivains comme ça aient eu la même démarche au début de leur carrière, puisque Flaubert avait commencé avec aussi un livre de ce genre-là. Oui. Mais Oui, c'est un roman d'apprentissage.
Alors, votre héros, qui est en même temps le narrateur, puisque c'est un roman à la première personne, est un jeune normand.
Un jeune normand, un oui, jeune enfin, normand. Oui, la région n'est pas vraiment citée, mais enfin...
On devine qu'il s'agit de la Normandie.
On peut la reconnaître, oui.
Et le roman commence à la mort de sa mère.
C'est ça, c'est ça.
Et on a l'impression que la mort de sa mère va le libérer, et enfin, lui, pour qu'il se mette à vivre.
Oui, c'est-à-dire que le personnage, au début, vit dans une espèce d'apathie, de sommeil, d'inaction totale. Bon, je pourrais pas vous définir d'une manière raisonnée pourquoi j'ai fait commencer le livre comme ça. Et on pourrait essayer d'y voir des allusions, en fait, que la mort de la mère coïncide avec l'éveil du narrateur. Bon, moi, je prends ça un petit peu à la légère, hein, mais effectivement, ça se passe comme ça. Mais... Et alors il monte à la capitale, comme effectivement les héros, pas mal de héros du 19e siècle. C'est pour ça d'ailleurs que mon éditeur a mis sur la couverture du livre à nous de Paris. Bon. Il monte à la capitale, mais la différence avec Rastignac, c'est qu'il n'a pas d'ambition bien définie, et puis il va échouer finalement assez lamentablement dans toutes ses tentatives, ou presque.
Alors, parlons de ses tentatives. La première, peut-être, c'est l'écriture à Paris. Il va dans le métro et puis tout d'un coup, l'envie lui prend d'écrire, ou plus exactement de décrire ce qu'il voit.
Décrire ce qu'il voit. Moi, j'ai toujours été très porté vers le style, je dis dans le livre, le style photographique, comme ça. Bon, moi, j'aime beaucoup toute la littérature de la très précise, de Flaubert, effectivement, et de la fin du 19e siècle. Et bon, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire un jour, que j'ai fait réellement. C'est-à-dire que comme je m'ennuyais beaucoup dans le métro, je me suis dit plutôt que de m'ennuyer, je vais faire des portraits les plus précis possibles des personnes qui sont assises en face de moi. Alors c'est quelque chose que je prête à mon personnage après, mais c'est une occupation assez amusante. Donc les gens, évidemment, au bout d'un moment, s'en aperçoivent et sont un peu inquiets. Mais
pourquoi ?
Les gens ne comprennent pas très bien. Ils voient quelqu'un qui les regarde fixement comme ça. Sans avoir trop l'air, évidemment, je me cachais un petit peu, et puis qui prend des notes, et puis qui les regarde. Il y a des gens qui vraiment avaient l'air très 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 très, très inquiets, qui comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et non, c'est une bonne occupation, en tout cas, que je recommande à tous les gens, que j'ai fait d'ailleurs pas seulement dans le métro, partout. C'est une période comme ça, ça m'a donné un gros matériau dont je me sers encore. Partout où j'avais rien à faire, où je m'ennuyais, bon, bah, je décidais d'écrire ce qui se passait. L'autre jour, ça m'est arrivé dans une salle d'urgence d'un hôpital, comme ça. Bon, c'est des bouts de texte qu'on garde, et puis bah, voilà.
Le métro resta longtemps mon lieu d'investigation privilégié. Je découvrais d'autres lignes, des correspondances secrètes. J'y passais des journées entières. La marée humaine m'attirait de plus en plus. Je griffonnais sans relâche. J'accumulais les notations sur les petites pages blanches de mes carnets. Parfois, mon regard fixe éveillait la suspicion du voyageur. Pourquoi m'observe-t-il ainsi? Que peut-il bien inscrire si précipitamment? Est-ce que mon mari emploierait un détective? Certains changeaient de place, tant l'interrogation était insoutenable. Qu'importe, je les suivais du regard, je ne les lâchais plus. La rame a démarré. J'ai cherché partout mon carnet dans de nombreuses poches. Ne le trouvant pas, je me suis rabattu sur un bout de papier. Au fond du wagon, un accordéoniste joue de vieilles rengaines parisiennes. En face de moi, un autre sujet, homme âgé, presque clochard, mais pas tout à fait. Il est assis sur un strapantin et tient entre ses jambes un énorme sac de plastique jaune usé et plein à craquer. Air fatigué du bonhomme, sale et parasé. Il peut avoir 50 ou 60 ans. Je crois qu'il m'a remarqué et se demande pourquoi je le regarde de la sorte. Je note au passage la difficulté d'écrire, la tête levée, face à un sujet d'observation pour ne laisser passer aucun détail. Ma main part dans tous les sens et cela devient très vite illisible. Il a de grosses et très vieilles chaussures de cuir, boueuses, trouées. Il a les mains ridées et quand même une espèce de souci d'élégance, écharpe verte installée avec goût sous sa veste grise et miteuse. Il a surtout une expression remarquable, ses lèvres appuyées l'une contre l'autre un peu en avant, qui lui donne un air décidé malgré son épuisement apparent. Il se met l'index dans le nez, tourne et retourne, il cherche avec vigueur des trésors cachés. Il s'endort peu à peu, mais relève parfois le sourcil avec un sursaut, comme s'il luttait pour ne pas sombrer. Il est décidément très curieux. Je viens de le voir enfoncer la main dans sa poche, avec un grand sourire figé, la seconde d'après, l'air furieux, puis ses yeux se sont refermés. Il dort. Le style de mes relevés devenait plus varié. Ça pouvait être l'enquête la plus stricte ou un véritable fragment lyrique. Avec l'habitude, je parvins à improviser des formes élaborées. Dimanche soir, porte d'Orléans. La rame s'en va. Personne en face de moi. Quelques types disséminés dans le wagon, genre service militaire en retour de permission. Alésia. Des gens montent, dont un drôle de spécimen qui me jette un regard inquiétant. Mouton du Vernet. On replonge dans le noir. Étrange temps du métro qui semble rapide ou lent, différent à chaque fois, à chaque moment, selon chaque circonstance. D'enfer Rochereau. D'autres passagers montent, d'autres s'en vont. Le drôle de spécimen s'est assis pas loin de moi, mais son regard en fait est complètement ahuri. Raspail. On replonge dans le noir, décidément les stations passent vite ce soir. Moment de détente. Vavin. Je descends à la prochaine. Une vieille femme bizarre allait se poser juste devant moi. Elle a hésité. Puis elle est allée s'installer ailleurs. Dommage. Ça aurait pu être le début d'une histoire. Montparnasse, bienvenue. Quand j'eus bien repéré le Paris souterrain, je fouillais de nouveau les recoins de Paris surface. À ciel ouvert pendant des mois, mes enquêtes s'étendirent à tous les aspects de la capitale. L'un après l'autre, ses secrets s'effacèrent. Pour mieux ordonner mes déambulations, j'accrochais chez moi un immense plan de cette cité qui représentait jusqu'au détail des maisons et des jardins. Je le quadrillais, le découpais en petits carrés de taille égale que j'explorais méthodiquement l'un après l'autre. Lorsque j'estimais en avoir fini avec une parcelle, je la noircissais sur la carte et je passais à une autre. Non pas nécessairement celle d'à côté, mais plutôt guidé par le souci que toutes ces cases noires et blanches forment un dessin agréablement ordonné. Au fur et à mesure que la carte disparaissait, j'accumulais les comptes rendus, les bouts de papier, les carnets. Jamais je ne m'y replongeais après coup pour tirer quelque profit intellectuel, voire moral de cette documentation. Mais elle me permit de m'acclimater en douceur, de me sentir mieux dans cette foule où il serait bientôt temps de me jeter de plain pied. Enfin, le jour arriva où j'explorais le dernier carré et où le plan complexe du département de la Seine m'apparut uniformément noir. Je ressentis alors une secousse violente, mélange de fierté, de fatigue enfin permise, mais surtout d'angoisse de me retrouver face à l'inconnu, ignorant de nouveau tout de ce que j'allais faire.
France Musique.
Votre jeune héros découvre le métro, se met à décrire les personnages qu'il voit dans le métro, et puis peut-être sa deuxième grande découverte de Paris, le deuxième stade de son initiation, c'est la vie nocturne dans la capitale.
C'est ça, oui, le monde du noctambulisme tel que moi je l'ai un petit peu fréquenté ces dernières années, donc je ne peux pas dire que ce soit la réplique exacte de Enfin, je crois que c'est assez fidèlement quand même une partie du monde de la nuit tel qu'il était autour de 1980, quoi. Enfin, à l'époque où je l'ai découvert. Oui, alors effectivement, l'idée peut-être, l'idée principale qui se dégage de tout ce passage-là, c'est le goût pour l'approche de l'existence à travers des choses superficielles. Pourtant, le personnage, au départ, est finalement très, très... Il a des expériences difficiles dans le monde littéraire. Et c'est un monde qui l'attire pas, qui l'intéresse pas. Alors il va essayer de découvrir l'existence comme ça, à travers la facilité, le plaisir. C'est effectivement une approche qui est d'ailleurs certainement aussi bonne, mais qui échoue comme la précédente.
Il ressemble pas mal au personnage qu'il décrit, à ce milieu branché, comme on dirait aujourd'hui, idéal, la nuit.
Oui, sauf qu'il arrive pas à s'amuser vraiment. Enfin, on a l'impression qu'il traîne un peu là-dedans, sans savoir trop pourquoi. Bon, il va dans les boîtes de nuit, il s'amuse, il rencontre des gens, il prend de la drogue, il fait des tas de choses. Mais ce personnage, bon, au fond, dans tout le livre, il est un petit peu à la recherche de la chose qui, dans l'existence, va l'accrocher. Et je crois pas qu'il la trouve non plus vraiment dans ce monde. Et donc, il se sent moins mal dans ce monde de la nuit que dans le monde du jour, mais enfin, c'est pas vraiment quand même le grand enthousiasme.
Oui, d'ailleurs, à un moment, il quittera ce monde de la nuit pour se plonger dans le monde du jour, et le monde du travail en particulier, voilà. Et l'expérience ne sera guère plus concluante.
Voilà, c'est ça, il décide d'aller travailler dans un grand magasin, il se retrouve dans un sous-sol comme manutentionnaire. Bon, c'est assez... D'ailleurs, c'est une expérience que j'ai connue aussi, mais... À la différence du personnage de mon livre, j'ai pas fait ça simplement pour aller voir parce que je m'ennuie dans le monde de la nuit. En fait, c'est parce que j'avais pas besoin d'argent, mais ça, je trouve pas ça drôle pour un personnage de roman de dire qu'il aille travailler parce qu'il avait pas besoin d'argent. Donc, il va travailler simplement pour voir comment ça se passe chez les travailleurs.
On a l'impression que votre héros, le héros de Sommeil perdu, essaie un petit peu tout dans la vie, sans vraiment y croire, un peu par désœuvrement, un peu par dandysme, mais qu'il n'est pas vraiment dans la vie encore.
Bon, moi, j'aborde l'écriture comme une activité artistique, donc je me sers un peu comme ça de toutes ces histoires, de ces mots, de ces paysages. Je peux pas vous dire précisément ce que ça signifie pour moi. Je crois que c'est simplement une question d'émotion, de sensation. On sent que ce personnage, bon, n'accroche pas avec l'existence. Et puis, bon, je peux pas tellement dire plus sur ce sujet.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sentiment que partagent beaucoup de jeunes aujourd'hui, entre 20 et 25 ans?
Oh, je pense que ce personnage, disons, reflète une partie peut-être de la jeunesse actuelle. Je veux dire, je suis pas un prophète. Bon, il y a des tas de gens différents. Je crois que ça correspond effectivement à un milieu de gens que moi j'ai bien connu. Ouais, je pense que ça leur correspond bien. Ouais.
Tout commença par des promenades. Dans l'ignorance où je me trouvais une fois de plus sur la voie à suivre, je m'étais remis à arpenter les sentiers de la capitale. Avec les jours plus doux du mois de mai, j'avais pris l'habitude de traîner aux terrasses jusqu'à une heure avancée, sans but précis, observant ici et là, ou à l'affût du premier but qui s'offrirait. Je me retrouvais ainsi dans le quartier des Halles, en pleine effusion, quand encore en secret, il était en train de devenir le nouveau cœur de Paris. L'ancien venait de mourir sous les coups des démolisseurs. Et l'espèce superficielle des gens qui passaient par là me séduisait d'emblée. Assez de ces esprits qui parlent de ce qu'ils savent, je préférais désormais parler de ce que j'ignore, occupation tellement plus délectable dans l'existence, qui venait trouver un nouveau refuge dans ce secteur en plein travaux. Attardé à noyer mon désarroi dans des verres de bière, assis aux terrasses au soleil couchant, j'avais senti de loin cette effervescence, cette frénésie alentour, plutôt dissimulée, sauf aux heures tardives. Des intrigues se nouaient discrètement près de moi dans la douce chaleur du soir. Bientôt, j'eus envie d'en savoir plus. Repris par mon vieil instinct d'explorateur, que le rythme propre à la nuit n'allait pas tarder à modifier radicalement, pour m'emporter tout entier dans son fleuve. Dominant ma timidité, je m'aventurai pour la première fois dans un véritable lieu nocturne, au Diable Vert, rue des Lombards. Ce soir-là, j'avais traîné dehors un peu plus qu'à l'accoutumée, mais c'était encore l'heure où la nuit se prépare, où quelques inconditionnels sirotent leur premier verre. Naïf, je croyais que le gros de la troupe était déjà passé. Il était, mettons, 11 heures quand je descendis l'escalier du bar, sous les regards d'une poignée de consommateurs indifférents, un peu méprisants. Jusque-là, peu soucieux des questions de look, pas adaptés à l'excentricité, à la recherche vestimentaire, alors en vogue dans le quartier, j'eus l'impression de débarquer dans un autre siècle. Et bien mal à l'aise, je m'en allai aux alentours de minuit, juste au commencement de la vraie nuit. Je répétai plusieurs soirs de suite la même erreur, quand enfin, une gentille barmaid m'expliqua, avec un fort accent d'outre-Atlantique, que je venais trop tôt et non trop tard. Fut-elle touchée par mon allure un peu égarée? Toujours est-il qu'elle me prit en charge et me donna mes premières notions de noctambulisme. Me dominant pour ne pas dormir, je traînai de plus en plus tard, mon verre ne désemplit plus, et je vis bientôt toute la faune arriver et prendre place. Souvent, cette société me semblait encore hostile. Je me sentais brusquement fatigué, et je rentrais chez moi plein de regrets de n'en pas savoir davantage. Puis la paresse elle-même perdit ses attraits. Mon lit cessa de constituer un soulagement. C'est ma barmaid affectueuse qui m'aida à persévérer. Avec elle, au moins, je savais comment m'y prendre. Les discussions, les épanchements au-dessus du comptoir, j'avais tout appris à la télé, au cinéma, et ça marchait. Bientôt, elle commença à me présenter, à me faire connaître. Elle était, je le répète, une personne très exceptionnellement gentille, une femme adorable. Je ne résistais pas à son influence, à cause de son accent charmant et persuasif. Elle savait me démontrer qu'il serait très malvenu d'aller me coucher à ce moment-là, avec de nombreuses explications, justifications, preuves à l'appui desquelles je ne pouvais plus décemment songer à partir. Je me plongeais dans des labyrinthes de réflexions, tiraillé par mes volontés contradictoires, et systématiquement, je finissais par céder, rongé par le remords, affichant de vrais et faux semblants de douleur, de lassitude, mais au fond de moi, plutôt satisfait de traîner encore. Je finis par maîtriser les mœurs et coutumes de ces heures-là. Je sortis de plus en plus tard, me couchai de moins en moins tôt. Les tendances de la mode me devinrent familières. Je renouvelai ma garde-robe de fond en comble. Je fis quelques rencontres, pas toujours passionnantes vues de l'extérieur, mais si délicieuses dans leur légèreté. J'étais fier de devenir un habitué. J'érigeais la futilité en principe de vie. J'étais joyeux de reconnaître un visage, de serrer une main ou qu'on serre la mienne. Je me laissais entraîner dans des endroits nombreux, autres bars et boîtes des halles, où les nuits nouvelles se propageaient rapidement. Je regagnai les Diables pour la fermeture au petit matin. En passant dans la rue à une heure tardive, on pouvait apercevoir une faible lumière. Dernier quartier de conversation inutile. Le sommeil est presque oublié, malgré une profonde fatigue. L'impression que ça pourrait durer éternellement. Puis j'entraînais ma petite barmaid au restaurant. La nuit s'achevait là avec quelques autres, grandes discussions autour d'un peu de saumon et de vin blanc. Jusqu'à ce que le jour glabre finisse par nous saisir. On se traînait dehors dans la triste grisaille de l'aube en quête d'un taxi. Adieu, à tout à l'heure. J'étais devenu un octambule. J'avais découvert le second versant de la nuit, l'apaisement du soir qui tombe, la crainte du lever du jour. Dès qu'il faisait noir, ou quelques heures après, je me mettais en route et j'allais de nouveau traîner de boîte en boîte jusqu'au matin. Je trouvais toujours ici ou là un ami, une connaissance, des gens pauvres un soir et le lendemain de l'argent plein les poches. Parce qu'on ne vit pas la nuit selon ses moyens, inexplicablement, les moyens s'alignent sur les désirs. La nuit dissimule des ressources nombreuses. Il suffit de se consacrer à elle, et tout devient possible le temps qu'elle dure. Tous les vœux s'exaucent.